7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, enquête sur la formation professionnelle au Québec. Une véritable porte d'entrée pour l'immigration choisie et pour de jeunes Africains déjà qualifiés. Exemple tout de suite avec ce cours de perfectionnement destiné aux infirmiers. Bienvenue dans l'apprentissage en situation typique de l'approche nord-américaine.
Ok, Monsieur Boivet, je me suis désinfecté déjà les mains. Très bien. Je vais vous administrer votre colis. Vos gouttes pour les yeux.
Toi, tu veux donner les gouttes. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas toujours prendre la page de ta FRDM avec ton médicament, puis tu vas dire est-ce que c'est bien le médicament prescrit avec la bouteille. Parce que ça se pourrait très bien que la personne n'a pas mis la bonne bouteille dans la bonne boîte. Fait que là, tu viens vraiment dire bétoptique, 0.25%. Est-ce que c'est bien ça?
Bien ça.
Parfait.
Parfait, Monsieur Boisvert, c'est bien le béton optique.
Oui.
0.25, exact.
Fait que là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a demandé à notre patiente avant d'injecter?
Bonjour, Pascal Guéry-Colas.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce reportage au Québec. Alors, on a entendu Armel, c'est un véritable infirmier. Le malade, Monsieur Boisvert, auquel il s'adresse, en revanche, ne peut pas lui répondre parce qu'il s'agit d'un patient fictif. C'est-à-dire un simple mannequin pour permettre aux étudiants de s'entraîner avant de traiter de véritables patients. Armel fait partie d'un groupe de personnel soignant d'Afrique et d'Haïti qui ont été recrutés par le gouvernement du Québec pour combler le manque d'infirmiers à l'hôpital. Sauf que, avant de les employer, bien, faut leur faire accomplir une petite mise à niveau de quelques mois en conformité avec le système de santé québécois. Pascal Guéry-Colas, vous avez enquêté sur ce système d'insertion professionnelle très différent de la France.
Oui, le Québec, qui fait partie du Canada, se distingue des autres régions de ce pays parce qu'il a un système d'éducation un peu particulier. En fait, entre le collège et l'université, il existe le cégep qu'on pourrait comparer finalement aux IUT en France, avec des formations davantage techniques, comme les soins infirmiers, par exemple. Alors, le Québec est en manque cruel de professionnels dans ce secteur. Il cherche à attirer des gens qui exercent déjà leur métier dans leur pays d'origine. Le cégep de Limoilou, dans la ville de Québec, les forme donc au béaba des infirmiers à la québécoise. Moi, j'ai donné rendez-vous à Stéphanie Quieta de Yaoundé. Elle vient tout juste de finir sa formation. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bon, pas pire, mais ça va.
Pas pire?
Ouais. Ça veut dire quoi, ça?
Pas pire?
Pas pire, juste que je sors d'une journée très fatigante, mais je fais l'effort que ça y aille.
Alors Stéphanie, ça faisait longtemps que vous aviez ce rêve-là de venir ici au Québec? C'est venu brusquement?
Étant donné que ma formation des infirmières au Cameroun, durant ces 3 années, on nous vantait beaucoup le mérite des infirmières canadiennes. Ce qui fait que pour moi, j'avais toujours prié venir un jour au Canada et puis voir comment la pratique se passe et puis pratiquer aussi comme ces infirmières qu'on nous a parlé le long de la formation. Puis avec le contexte africain que nous avons, qui sévit présentement dans nos pays, ce n'est pas du tout évident. Le climat sécuritaire n'est pas très aisé et puis le coût de vie aussi n'est pas très aisé. Et étant donné que j'étais mariée et puis mon conjoint avait la résidence permanente, il est arrivé et puis avec le parrainage, je suis aussi arrivée au Québec. Aussi mon grand frère aussi, mon deuxième grand frère aussi est au Canada et puis il est arrivé avant moi. Ce qui fait que étant deux dans un continent, je ne devais pas me sentir aussi lésée que ça.
Quelle profession exerciez-vous lorsque vous étiez à Yaoundé?
J'étais infirmière supérieure au centre des urgences de Yaoundé. Le seul centre de référence d'urgence du Cameroun, le seul. Et j'étais majeure en petite chirurgie.
Donc, ça veut dire que vous aviez une bonne profession à Yaoundé?
Oui. Avec ce que nous avons fait ici à l'école et lors des stages, je comprends que l'approche est vraiment différente de ce qu'on pratiquait en Afrique. Ici, au Québec, avant d'aller en stage, nous pratiquons d'abord sur des mannequins. Nous avons des mises en situation sur des mannequins. Si bien qu'avant d'aller en stage, l'étudiant sait ce qu'il attend, ce qu'il doit faire. En fait, au fur et à mesure que les conditions changent, peut-être les pratiques changent, on le met immédiatement en pratique. Ce n'est pas comme des anciennes pratiques qu'on a encore tendance à l'utiliser en Afrique. Quand on dit, par exemple, une voie veineuse, on n'utilise plus tel produit, ici, on le respecte. Mais parfois, en Afrique, c'est après 10 à 20 ans qu'on vous dit, ah, les écrits disent qu'on n'utilise pas ça, mais on le fait quand même par manque de matériel. Ce n'est pas qu'on n'a pas la volonté, mais parfois, c'est le manque de matériel.
Donc, Stéphanie, vous êtes ici depuis 3 ans. Votre conjoint était là un an avant, donc lui, ça fait 4 ans. Comment vous vous sentez au Québec?
Très à l'aise. C'est vrai que la distance, le fait de laisser sa famille un peu loin nous gère par moments, mais on n'a pas de souci étant donné qu'on a famille et puis on a l'entourage. On a même les Québécois, ils sont vraiment très, très humains quand même parce que j'ai eu à travailler dans des résidences avec des Québécois, je ne peux pas vous tromper, nous sommes vraiment très soudés. On s'appelle de temps en temps, beaucoup m'ont soutenu pendant ma formation, à chaque jour, chaque fin de semaine. « Oh Stéphie, ma belle Stéphanie, comment ça va ?» Ce qui fait que le moral y est. Quand j'ai même fini, beaucoup m'ont invité pour prendre un petit souper. « Oh, tu as enfin fini !» Bon, ce qui fait que l'hospitalité quand même, c'est quelque chose à apprécier.
Est-ce que le fait de venir d'un autre continent, d'un autre pays, est-ce que c'est un obstacle pour certains patients avec qui vous avez été à l'hôpital?
Oui. C'est juste que quand on sait où on va et on sait le pourquoi on est là, on s'en fiche pas mal de beaucoup de choses. Lors de mes stages, je savais que j'étais là pour apprendre. Peu importe ce que le patient me dira, je vais essayer de pas le frustrer, pas lui avancer des paroles méchantes. On essaie juste de l'amener à comprendre parce qu'on travaille sur une clientèle beaucoup âgée. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu la chance d'être en contact avec des personnes de peau noire comme moi. Vous le savez, il y a tellement de paroles vraiment choquantes. C'est-à-dire que quand un patient te le dit, si tu n'as pas le cœur, tu vas te tourner et rentrer. Mais ce n'est pas pourquoi nous sommes à l'hôpital. Donc, même si on dit, et parfois on comprend que le fait d'être malade peut nous pousser à dire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de patients qui ont apprécié ce que je faisais. J'ai fait ce qu'il fallait faire et au moment où il fallait le faire, c'est tout. Mais la couleur de la peau, ça joue beaucoup. Et si on n'est pas très fort, on peut démissionner.
Est-ce que vous trouvez, avec le recul, que vous avez pris une bonne décision ou il y a des choses qui vous ont déçu depuis votre arrivée ici?
Non, c'est une bonne décision. Parce que après la formation de 9 mois, ce qu'on a fait, quand je pose un acte, je sais que ça, c'est le devoir, c'est le rôle de l'infirmier. Mais par moments, au Cameroun, on le faisait parfois sans savoir pourquoi on le fait. Et puis, venir changer de milieu, c'est toujours un atout pour le pays parce qu'on ne sait jamais, même pendant des vacances, on peut y retourner et donner un coup de main pour changer la pratique infirmière au pays. Quand je leur parle du Québec avec la formation, ça donne l'envie à beaucoup d'y venir aussi et puis de se former. Il y a beaucoup même qui veulent faire les spécialisations ici au Cameroun, qui font même des admissions dans les établissements, des écoles ici. Oui, beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai 2 qui sont où les documents. Il y a une qui est présentement à Montréal, qui est là, et puis d'autres sont aussi dans le circuit des documents.
Donc, vous avez été une agente d'immigration, finalement?
Bon, en quelque sorte. Étant donné que pour moi-même, avant de venir, j'ai toujours eu des frères qui m'ont aussi beaucoup motivée. Bon, il faut aussi motiver les autres.
Le gouvernement du Québec déploie des efforts pour recruter du personnel à l'étranger, qu'il forme donc pendant quelques mois dans les cégep, ces centres de formation. Quelle est l'ampleur du phénomène, Pascal Guéricolas?
Eh bien, en 5 ans, la proportion de jeunes venus de pays comme le Cameroun, le Sénégal, la République du Congo ou des pays du Maghreb a augmenté de 135%, donc ça a plus que doublé. On compte environ 600 étudiants africains francophones dans les 48 cégeps du Québec. Et d'ailleurs, de plus en plus de ces étudiants choisissent de leur propre initiative de venir au Québec sans faire l'objet d'un ciblage finalement de la part des autorités. Ils veulent acquérir des connaissances plus techniques. Beaucoup sont à la recherche d'une formation qui leur permette de travailler dès leur diplôme en poche. Nous partons maintenant dans un autre centre de formation. C'est le Cégep de Trois-Rivières, dans une petite ville tranquille entre Québec et Montréal. Seulement 140 000 habitants. On est donc très loin de l'image des grandes villes nord-américaines. Il y a très peu d'embouteillages là-bas. Et c'est là qu'on enseigne notamment l'automatisation industrielle et les employeurs s'arrachent les diplômés. Alors, j'arrive au pavillon des sciences. C'est un petit immeuble de 2 étages, à peu près en briques. Il est situé dans un quartier vraiment très résidentiel. Il y a des petites maisons à côté, des petits bungalows très nord-américains. Alors, on va rentrer maintenant. Et là, je rentre dans la salle où travaillent les étudiants en automatisation. Et une des choses qu'on découvre dans cette salle, c'est une machine à trier les biscuits qui est semblable finalement à celle que l'on trouve en usine.
Et ce sont les différents biscuits, ce qu'on appelle nos biscuits. On les met comme ça de façon aléatoire, puis la machine va les placer, puis au final, on va avoir chaque couleur ici. Et en chemin, on va avoir éliminé les biscuits minces, par exemple. C'est vraiment des équipements industriels. C'est plus réaliste avec ces équipements-là. Donc là, il y a un petit ajustement avant de démarrer. Et on démarre. Donc là, on place un biscuit. Là, il a identifié qu'il était dans le bon sens. Donc, il va seulement continuer. Ici, on vient valider son épaisseur. Comme c'est un biscuit qui a la bonne épaisseur, bien, il va cheminer jusqu'à l'autre bout. Puis là, bien, les verts sont dans la première glissière. Le suivant, c'est un jaune.
Bonjour, je m'appelle Demano Camille Stevie Manuela. Je viens du Cameroun. Je suis en dernière session de DEC en électronique industrielle au Cégep de Trois-Rivières. Le déclic est le fait que j'ai fait un stage dans une société camerounaise qui fabrique des produits laitiers. Mais là, il y avait des automates, mais je me suis rendu compte que tout le temps, quand il y avait une panne, il fallait toujours appeler un intervenant. Je ne sais pas si c'était de l'Inde ou de l'Allemagne. On pouvait rester sans travail même 2 semaines. Il va arriver, il va travailler, il faut le loger et tout, et après, il va repartir. Donc, s'il y a un problème, il n'y a personne sur place pour travailler dessus. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas regarder peut-être les marques d'automates qu'on utilise ici ou aller me former en automate sur les automates au Canada, m'affilier avec une société ici, rentrer peut-être être leur représentante au Cameroun ou en Afrique centrale. Donc, du coup, s'ils ouvrent une base là-bas, ce sera très facile d'aller auprès des entreprises, dire, il y a une société qui est disponible au Cameroun, il y a des techniciens sur place, donc peut-être les amener à utiliser cette marque. Donc, du coup, s'il y a un problème, c'est facile d'intervenir, ils seraient déjà sur place.
Donc, votre but, ça sera éventuellement de rentrer une fois que vous aurez pris de l'expérience ici, là, c'est ça?
Et maintenant, depuis que j'ai commencé à travailler là-dedans, je me suis encore rendu compte que c'est ce qu'elle fait, peut-être fabriquer des stations automatisées, il n'y en a toujours pas chez moi. J'ai fait informatique industrielle, mais si je n'avais pas fait de ça, je n'ai jamais vu un automate. Et même en industrie, tu n'as pas le droit de toucher. Donc, du coup, je me disais, ce serait bien si, peut-être avec le temps, essayer peut-être de faire profiter des autres étudiants chez moi qui se forment en automatisation. Mais avant de rentrer, je vais juste m'arranger avec un statut qui me permettra de revenir de temps en temps, peut-être si j'ai des composants électroniques achetés, des pièces achetées, des réunions à faire, tout ce comme ça. Mais le but premier, c'est prendre l'expérience et après rentrer.
Jean-Loïc, vous venez de commencer vos études au Cégep de Trois-Rivières. Est-ce que la question de l'équipement disponible dans votre pays au Cameroun a joué aussi dans votre choix de venir au Québec?
Au Cameroun, moi, j'ai étudié aussi le génie électrique, pratiquement le même programme qu'elle. J'ai eu licence en automatisme aussi, en génie électrique en général, automatisme. Mais moi, je me concentre plus sur la conception des équipements électroniques. Bon, c'est aussi quelque chose qui est limité chez nous. Nos établissements ne nous offrent pas vraiment ces connaissances dans la conception. Nous restons plus théoriques. Ça, c'est l'un des principaux problèmes que nous avons là. C'est pour ça que nous migrons vers le Canada pour créer l'expérience pratique. Et dans mon programme de télécommunication, nous avons au moins près de 4 matières qui sont axées spécialement vers la conception. Ce qui m'aide beaucoup à réaliser aussi mon projet final, qui est aussi la conception des automates. Au Cameroun, les projets que j'ai commencés, tu peux faire 5 ans là, ici, facilement en 1 an, tu peux finir ce projet parce qu'il y a vraiment tout devant toi pour vite avancer. Donc, au Cameroun, quand tu conçois parfois un produit, tu crées un schéma, après tu as besoin d'une pièce tu vois qu'il faut toujours commander la pièce. Et parfois, quand tu passes la commande, là, on te dit que non, on ne peut pas envoyer ça, où tu te trouves. Tous ces problèmes-là, tu es obligé d'essayer encore de concevoir notre système pour remplacer le système-là. Ce qui fait qu'étant au Cameroun, en concevant un appareil peut-être sur place, ça sera encore très coûteux même. Parce que tu vas toujours te trouver en train de faire des modifications, ainsi de suite. Oh, déjà au Canada, tu as tout. En fait, on te présente même des nouveaux composants qu'au Cameroun, tu n'avais même pas accès à ça. Ce qui améliore encore toutes tes idées dans la conception et autres. En fait, c'est ça. Dans mes démarches de visa, bon, il est bien vrai, j'ai eu environ 2 refus de visa parce que mon programme coûte près de 18 000 $. Moi, particulièrement, j'ai bénéficié aussi d'une bourse, mais en quittant le pays, je n'avais pas encore ma bourse. Donc, il fallait toujours prouver la capacité financière. Bon, mes parents ont présenté un compte où il y avait ces fonds qu'ils demandaient. Pour eux, prouver la capacité financière, il ne suffit pas juste de montrer que tu as un compte au pays. Pour mieux le prouver, il faut payer au moins une session. Mais à ça doit être lié maintenant ce que font tes parents. Parce que tu peux avoir un compte qui a 100 millions dedans, mais on te refuse le visa, mais tu dis que tu avais l'argent. Il faut maintenant qu'on voit la provenance de cet argent. Donc peut-être l'entreprise de tes parents, qui est ton garant, les chiffres d'affaires, registre de commerce, c'est ça qui prouve vraiment qu'il y a ces fonds dans le compte. Parce que d'autres, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent juste avoir l'argent dans le compte, mais c'est pas... Si on ne voit pas la source, la provenance de cet argent, franchement, vous n'aurez pas de visa. Donc, une fois que nous avons appris cela, grâce au site d'immigration et aussi dans l'entretien que nous avons fait avec le CIGEP du travail, Madame Janice spécialement, nous avons eu plusieurs réunions avec le CIGEP. C'est ça qui nous encourage aussi beaucoup dans nos démarches. Parce qu'avant que nous arrivions, nous inscrivons au CIGEP, nous participons à plusieurs réunions, on nous dit exactement ce qu'il faut faire. Ça nous a permis de corriger beaucoup d'erreurs. Moment, dès que tu as une préoccupation, tu appelles le CIGEP de Trois-Rivières, directement tu auras une réponse. Ça nous permet aussi de mieux avancer dans nos dossiers. Les étudiants sont chez au Canada, mais il y a aussi tellement de bourses que les étudiants internationaux peuvent avoir. C'est ça aussi l'avantage qu'on a au Canada.
Sept milliards de voisins, vous allez retrouver d'autres témoignages sur la formation professionnelle au Québec et dans quelques instants, on entendra la responsable des affaires internationales de l'un de ces centres, de ces cégeps, qui nous expliquera pourquoi ils ouvrent grand leurs portes aux jeunes qualifiés du continent africain, mais également d'Haïti. Ça sera juste après Fred, c'est un très jeune rappeur installé à Montréal et multiculturel.
Je te laisse un message, mais je sais que t'as changé. De façon, y'a que les fous qui changent pas. Je voulais juste te dire l'autre soir quand j'ai dit je te déteste. Bah au fond, je pense pas, j'étais juste bête. J'avais juste peur de te perdre. Me retrouver seul comme une lune sans terre. Ou comme un joueur de foot sans terre. Pour toi, je peux courir sans terre. Dis-moi pas que je suis comme les autres. Ça briserait ma tête et après mon ego. Ça briserait le cœur d'enfant que j'ai gardé depuis petit. C'est-à-dire celui fait en l'ego. Et je fais tant l'égoïste. Quand je parle de moi, 10 minutes d'appel. Et je parle que de moi, mais je veux pas te frayer. À parler nous, je voudrais pas que tu veuilles que je parte loin. Hey, j'avoue que tu tournes dans ma tête. Alors s'il te plaît, réponds-moi. Ouais, s'il te plaît, réponds. C'est le 15e message, mais je sais que t'as changé. De toute façon, y'a que vous qui change pas. Je voulais juste te dire au soir quand j'ai dit je te déteste. Bah, au fond, je pense pas, au fond, je pense pas. Ma chérie, elle tombe dans ma tête. Alors t'imagines si je la perds. J'arrive plus à stopper l'inverse. Comment te sortir de ma tête, hein? Fallait que je te dise, j'ai jamais trouvé à travers d'autres filles. J'ai trouvé des folles, j'ai trouvé des on se voit bientôt sans jamais redonner d'autres suites. Tu me prends pour un con, tu me prends pour le genre de gars qui se remonte l'ego en faisant un son qui accumule et bravo, je t'adore, t'es super en guise de trophée. Au fond, t'as raison. Eh, eh. J'avoue que tu tournes dans ma tête. Alors s'il te plaît, réponds-moi. Ouais, s'il te plaît, réponds. C'est le 100e message, mais je sais que t'as changé. De toute façon, y'a que vous qui change pas. Je voulais juste te dire au soir quand j'ai dit je te déteste. Bah, au fond, je pense pas, au fond, je pense pas. Ma chérie, elle tombe dans ma tête. Alors t'imagines si je la perds. J'arrive plus à stopper l'inverse. Comment te sortir de ma tête? Wow, 20 secondes top chrono. C'est tant que ça prend pour me répondre. 2 ans, 3 semaines, 4 heures, 16 minutes. Ça, c'est tant que ça m'a pris pour attendre. Une chance que je suis patient. Me dis pas que j'ai tourné la page. Alors que t'as déjà brûlé le livre. C'est le 100e message que je laisse sur ton répondeur. Alors que ça fait des mois que le mien il est vide. Je te laisse un message, mais je sais que t'as changé. De toute façon, y'a que vous qui change pas. Je voulais juste te dire au soir quand j'ai dit je te déteste. Bah, au fond, je pense pas, au fond, je pense pas. Ma chérie, elle tombe dans ma tête. Alors t'imagines si je la perds. J'arrive plus à stopper l'inverse. Comment te sortir de ma tête?
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Reportage aujourd'hui au Québec avec notre correspondante Pascale Guéricolas sur la formation professionnelle comme une porte d'entrée pour une immigration qualifiée. Pascale, on a entendu les témoignages de ces étudiants du continent africain. Ils sont satisfaits d'avoir accès à une formation technique au Québec qui souvent complète finalement des connaissances universitaires plus théoriques qu'ils ont acquises sur le continent africain. Mais qu'en est-il pour ces centres de formation, pour ces cégep? Quel est l'intérêt de recruter des étudiants africains déjà qualifiés dans leur pays?
Et il faut dire que pour des établissements de formation loin des grands centres urbains, qui ont souvent peine à remplir leurs classes, cet apport de clientèle est inespéré parce que les inscriptions dans les cégeps sont payantes. À titre d'exemple, une formation en automatisation comme celle que dispense le cégep de Trois-Rivières peut revenir à près de 10 000 euros par an. Il faut savoir cependant que le gouvernement du Québec fait des efforts pour réduire la facture pour les étudiants étrangers. Beaucoup sont admissibles à des bourses qui couvrent leurs frais d'inscription. Et récemment, les autorités ont annoncé une exemption de frais pour les programmes techniques. À titre d'exemple, on peut dire le génie, les technologies de l'information à certaines conditions. Cela démontre donc l'intérêt du Québec à recruter des candidats dans des pays francophones. Je vous invite maintenant à écouter Anne-Marie Tremblay. C'est la directrice du bureau international du cégep de Limoilou. À Québec. Elle aide les candidats alors qu'ils sont encore au pays. Elle connaît très bien cette clientèle. Le Canada étonne souvent par son taux de chômage très bas. Et dans la ville de Québec où travaille Anne-Marie Tremblay, c'est encore plus bas, 3% seulement de chômage.
Il y a comme deux tendances là, qui vont se dégager. On a des candidats plus jeunes qui, je pense qu'au niveau de leurs parents, ils ont ça en tête, que les études deviennent un tremplin ou une porte d'entrée vers l'immigration, mais où ce projet d'immigration-là est probablement un peu moins défini. Puis sinon, l'autre profil, qui est la clientèle qu'on vise avec notre parcours formation-emploi, là, on s'adresse vraiment à des candidats qui ont déjà une expérience de travail ou des études supérieures et qui veulent intégrer le marché du travail québécois, qui possiblement vont avoir tenté de le faire directement en essayant d'immigrer, mais c'est ce qui est très difficile en ce moment. Alors là, l'éducation devient vraiment justement cette porte d'entrée-là qui leur permet de venir mettre à jour une formation qu'ils ont, acquérir des compétences additionnelles, mais vraiment dans l'optique là, d'intégrer le marché du travail et d'acquérir la résidence permanente. En fait, les entreprises québécoises, là, les employeurs, ils vont rechercher deux choses. Ils recherchent un diplôme québécois puis une expérience de travail québécoise. Je pense qu'on est tous conscients des enjeux qu'il peut y avoir par rapport à la reconnaissance des diplômes étrangers. Donc, un candidat qui réussirait à immigrer avec son diplôme, des fois, il va avoir des enjeux là, à le faire reconnaître. Puis quand il va appliquer sur des emplois, s'il n'a jamais travaillé au Québec, c'est un défi additionnel. Alors, nous, c'est les deux outils qu'on leur donne. On leur donne un diplôme québécois puis une expérience de travail parce que autant au DEC que dans les AEC, les candidats vont toujours avoir la possibilité de travailler pendant leurs études. Donc ça, c'est vraiment un bel atout là, qui permet d'intégrer plus facilement le marché du travail par la suite.
Quelles sont les formations qui sont le plus en demande avec ce genre de projet d'immigration?
En fait, on a une technicienne ici qui dirait les Africains, là, ils choisissent toujours entre soins infirmiers, informatique, des fois nos programmes de gestion. Là, mais tous nos programmes, quand même, en génie, sont assez populaires là, auprès de cette clientèle-là, ce qui n'est pas le cas au Québec. Là. Les taux d'insertion, ils sont bons dans tous nos programmes. Mais tu sais, informatique, nos programmes de génie, santé, c'est quand même des programmes populaires.
Et ces efforts-là que vous faites de recrutement en lien finalement avec l'immigration, est-ce que c'est un mandat que s'est donné le cégep ou c'est le gouvernement du Québec qui vous a suggéré d'aller recruter des candidats?
Non, c'est vraiment au niveau du cégep. Il y a deux visées principales. C'est sûr qu'en toute honnêteté, c'est parce qu'on a connu une baisse de la clientèle au Québec, dans notre établissement. Donc, les étudiants internationaux, ça nous permet de venir combler des cohortes. On est dans des filières où il y a énormément de besoins de main-d'œuvre. Donc, c'est aussi notre contribution à la région. Donc, former davantage de diplômés. Puis, on le fait aussi dans une optique d'internationalisation de notre établissement, d'ouverture sur le monde, de permettre à nos candidats de côtoyer cette diversité-là qui est riche.
Parce qu'on aurait pu penser que le gouvernement du Québec aurait investi justement dans ce genre de promotion parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée.
Oui, ben, ils le font quand même. Puis là, il vient d'avoir une annonce là, par rapport à l'exemption des frais de scolarité pour les candidats dans des programmes ciblés. Donc, en génie, en éducation, santé, construction. Puis là, il me semble qu'il m'en manque un. Donc, ça, c'est une grande nouvelle. Là. Il parle de 80 millions d'investissements sur 4 ans. Donc, à partir de l'automne 2023, ça va être offert pour tous les établissements hors de la région métropolitaine de Montréal. Là. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle, puis je pense que c'est la voie à prendre parce que l'enjeu des frais de scolarité demeure un enjeu de taille. Le prix moyen est autour de 15 000 $ canadiens par année en frais de scolarité seulement. Donc, quand on ajoute les coûts de vie, on est autour de 25 000 à 30 000 $ canadiens. Donc, pour 3 ans, là, on est près de 100 000 $ là, d'investissement que ça leur demande. Les gens à qui ça s'adresse, c'est des gens très aisés, là, mais souvent, bien, ces gens-là vont plus vouloir aller dans des universités prestigieuses ou tout ça. Alors, on a quand même une certaine difficulté là, à percer des marchés. Donc, c'est certainement une très bonne nouvelle. Puis dans un contexte où on a besoin de ces gens-là, puis ils viennent vraiment, s'ils restent par la suite, bien, ils viennent contribuer là, au paysage socio-économique du Québec. Alors oui, c'est une bonne nouvelle.
Pourquoi vous dites qu'on a besoin de ces gens-là?
Bien, je pense que c'est évident, la pénurie de main-d'œuvre qu'on a au Québec, c'est inégalé. Puis là, 2,5 % de taux de chômage, tu sais, c'est quoi concrètement? Bien, c'est des restaurants qui ferment à certaines journées, des entreprises qui refusent des contrats. Puis je pense que la vitalité économique du Québec peut être compromise par cette pénurie de main-d'œuvre-là. Alors, on n'a pas le choix de se tourner vers l'immigration. Puis je pense que cette combinaison-là, en fait, d'éducation et d'immigration, elle est la meilleure. Parce que c'est des candidats qui s'intègrent beaucoup plus facilement par la suite sur le marché du travail. Parce qu'ils vont avoir été formés à la québécoise. Puis, tu sais, l'éducation québécoise, elle est reconnue sur la scène internationale. Nos programmes dont on fait la promotion, les taux de placement varient entre 85 à 100 % donc sont très élevés. Puis, en plus, au Cégep Limoilou, on a la chance que, autant pour l'alternance travail-études que pour notre parcours formation-emploi, on a une équipe de professionnels qui est chargée de faire le placement des candidats. Parce que c'est sûr, en plus, pour des candidats internationaux, ça peut être un défi additionnel de se trouver un emploi quand on arrive, on n'a pas de réseau, tout ça. Donc, souvent, ils sont rassurés quand on leur dit non, il y a un responsable de stage qui va trouver les offres de stage pour toi, tu vas juste avoir à appliquer. Donc, mais oui, les taux d'insertion sont très bons.
Quand on parle de mobilité internationale, on parle aussi de fuite des cerveaux. Est-ce que ça, c'est une crainte ou c'est un défi auquel vous pensez en tant que cégep?
On y pense assurément, puis c'est intéressant parce que justement, on revient de Tunisie, puis eux autres sont dans un contexte où leur taux de chômage à eux est très élevé. Donc, ils cautionnent ça, le fait d'offrir à leurs ressortissants des possibilités de quitter le pays parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas des opportunités pour tous ces candidats-là. C'est sûr que nous, on n'est pas, par exemple, comme dans des universités, aller chercher des chercheurs avec des post-doctorats ou des choses comme ça. On s'adresse plus à une classe moyenne ouvrière ou des techniciens supérieurs. Puis souvent, en fait, leur réalité à ces gens-là, s'ils veulent partir, c'est que soit ils n'ont pas de possibilités professionnelles ou des possibilités professionnelles qui ne sont pas si intéressantes. Là où c'est un enjeu qui, pour nous, est particulièrement sensible, entre autres, c'est avec soins infirmiers, de dire, bien, si on enlève des infirmières qui ont formé, qui ont payé pour les former, c'est sûr qu'il y a un enjeu éthique qui se pose.
Le gouvernement du Québec fait-il un effort particulier pour recruter des candidats en soins infirmiers?
Oui, c'est ça. Il y a un projet qui est financé là, par le gouvernement du Québec qui fait en fait que les infirmières étrangères qui veulent faire intégration à la profession, infirmières sont exemptées des frais de scolarité et elles sont payées un montant de 500 $ par semaine pendant la formation. C'est un projet qui est développé avec les établissements hospitaliers. Donc, elles vont travailler comme préposées aux bénéficiaires pendant leur formation. Puis ensuite, l'objectif, c'est qu'elles soient embauchées au terme de la formation. Premières infirmières sont attendues à l'automne. C'est sûr que c'est un projet très ambitieux qui a été mis en place dans des échéanciers serrés.
Donc, vous êtes un peu des ambassadeurs du Québec, finalement, à l'étranger.
Oui, si on veut. on est des amoureux du Québec. On a beaucoup à offrir pour ceux qui recherchent ça. Tu sais, ça convient peut-être pas à tout le monde. Puis, bon, on a un hiver rigoureux. Il y a d'autres aspects, mais pour les gens qui aiment ça, puis ce qu'on met souvent de l'avant aussi dans nos présentations, c'est l'aspect de méritocratie. Au Québec, t'as pas besoin d'être né nécessairement dans une bonne famille, d'avoir des contacts. Si t'as des compétences, t'es travaillant, tu vas pouvoir te faire offrir des possibilités professionnelles puis gravir les échelons. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis tu sais, on reste une culture jeune, dynamique, la hiérarchie est moins importante. Le milieu du travail, je pense, est quand même beaucoup plus ouvert que dans d'autres pays. Puis ça, je pense que ça interpelle beaucoup des candidats.
Donc, on revient à l'esquisse et on refait les dimensions ici.
Au cégep de Limoilou, j'ai aussi rendez-vous avec Jessica. Elle me conduit vers une étudiante de 48 ans qui est d'origine tunisienne. Et celle-ci est plongée en plein travail de dessin d'une pièce industrielle. Alors après 20 ans chez Télécom Tunisie, Asma a complètement revu sa carrière.
C'est pour ça qu'il fallait faire les congés avant pour être capable d'aller chercher l'angle de ta pièce, parce que sinon, lui, d'emblée, il pense que c'est des lignes qui sont
horizontales. Mais l'autre aussi doit être...
Alors, moi, je m'appelle Asma Bendaya, mariée, mère de deux enfants. Je suis originaire de la Tunisie. J'habite Tunis-Centre. Je suis venue au Canada la première fois en 2009. J'ai une cousine qui habite à Montréal. Je suis tombée amoureuse de ce pays-là. Et j'ai dit, un jour, je vais revenir pour travailler, pour rester et tout. J'ai aimé ce pays, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout le monde me dit, c'est difficile, c'est loin, c'est froid. J'ai aimé. Moi, j'ai tout dans mon pays. J'ai ma maison de plage, j'ai ma voiture. J'avais tout. J'ai dit, je vais y aller, faire une formation, travailler 5 à 10 ans. Mon fils, en 2009, il avait 6 ans. Et depuis là, je lui disais, toi, tu vas faire ingénieur en polytechnique. Et pourtant, mon mari voulait que son fils soit médecin. Mais moi, j'ai gagné.
Le fait de suivre cette formation au cégep, c'était une façon d'entrer au Québec?
Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai 21 ans d'expérience dans mon pays. Mais quand j'ai trouvé cette formation, j'ai dit, bon, je vais faire cette formation pour chercher un emploi. Et surtout que cette formation, elle est co-emploi, études. Donc nous, on est en train d'apprendre un métier. Les employeurs, ils cherchent des gens qui ont déjà au moins les bases du métier. Donc la formation en CDAO, en conception dessin assisté, elle est trop demandée dans le marché de travail. Parce que tous les domaines ont besoin de dessinateurs et des concepteurs. Il n'y a pas de risque de ne pas trouver un stage ou pas trouver un emploi. Tout le monde est en stage maintenant, tout le monde. Et le plus important de la formation, qu'on peut être, après les 14 mois, un employé qualifié. C'est ça le plus important. C'était pas facile là, au début. Laisser tout, une carrière, la famille, les amis, tout. Et reprendre à zéro. J'ai adoré cette formation malgré la difficulté que j'ai trouvée. Quand tu vois ce que tu as dessiné concrètement, c'est impressionnant. Et tu es contente. Et surtout, on a eu 3 visites dans des entreprises. Et on a vu, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire après.
Donc ça veut dire que, est-ce que vous avez des stages en entreprise également dans la formation ou ce sont simplement des visites d'entreprise?
On a fait des visites et là on commence, après les 2 premières sessions, on a des entrevues avec des entreprises. J'ai choisi 3 entreprises dans mon domaine bien sûr. J'ai fait les 3 entrevues avec 3 sociétés. Celle que j'ai commencé mon emploi avec eux, elle a tenu bon que je lui envoie mon CV. Même avant de terminer la formation.
Depuis ce printemps, vous êtes à la fois au cégep et à la fois en entreprise?
Oui. Et le stage va être dans l'entreprise où tu as choisi. On a 6 semaines de stage en temps plein. C'est rémunéré les stages. Même l'emploi temporaire, il est rémunéré. Et j'ai même eu un contrat après ma formation avec cette entreprise. Donc j'ai eu 2 contrats, un contrat en tant qu'employé temporaire et stagiaire, et après la formation, j'ai eu un contrat en CDI, en tant qu'employeur permanent.
Donc ça veut dire qu'avant même la fin de vos études, vous êtes déjà recruté?
Oui, mais à la fin de ma formation, oui bien sûr. Ce que j'ai remarqué, que les entreprises, quand ils entendent parler du cégep, c'était très important de dire que je fais ma formation au cégep Limoilou. C'était quelque chose pour eux. Et que la formation, c'est du sérieux et c'est une référence.
Les étudiants bénéficient d'une bonne formation technique au Québec, ce qui leur permet donc de trouver facilement du travail. Mais en réalité, Pascal Guéricolas, c'est un parcours du combattant, on l'a entendu aussi, et souvent très coûteux pour ces immigrés qualifiés.
En fait, les difficultés commencent lorsqu'il s'agit d'obtenir un visa d'étudiant. Même si les cégeps acceptent leur candidature, que la province de Québec leur ouvre les bras en leur versant parfois des bourses, le Canada, lui, fait souvent la sourde oreille. Or, les documents d'immigration dépendent des autorités fédérales canadiennes. Dans un récent rapport parlementaire, on notait que les plus hauts taux de refus de visa d'étudiants à travers la planète concernent les demandes provenant de 13 pays de l'Afrique francophone. Par exemple, pour l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Togo, le Cameroun, cela atteint 80%. J'en ai parlé avec Francis Brown. Il dirige, lui, le service des affaires internationales de la Fédération des cégeps, soit 48 établissements d'enseignement à travers le Québec.
On voit que le taux de refus de permis d'études pour les candidats africains est plus élevé que pour le reste du monde. Et ce n'est pas une question de volume. Si on regarde les volumes de demandes de permis d'études qui viennent des pays africains versus des pays, par exemple, asiatiques ou sud-asiatiques, qui sont l'Inde et la Chine, le volume, il est là, mais le taux de refus n'est pas pareil. On parle de 19% pour la Chine, on parle d'autour de 30% pour l'Inde, alors que pour l'Afrique, ce qu'on note, c'est un taux de refus qui va entre 70, 75, 80, 85% et qui est en croissance. Et c'est ça qui est inquiétant. Maintenant, on parle du pays de provenance. On a sensibilisé les autorités fédérales au fait que le niveau cégep, qui est un système assez unique en Amérique du Nord, sinon au monde, de par ses passerelles inter-ordre et les débouchés vers le marché de l'emploi ou encore la formation universitaire au cycle supérieur, et ce qu'on croit, c'est qu'il y a une méconnaissance de ce système d'éducation, alors que la demande est en hausse du côté des pays africains. Donc, ce qu'on dit, c'est que pourquoi au niveau des pays africains, il y a un plus haut taux de refus? Pourquoi il y a un plus haut taux de refus au niveau cégep que dans les cycles supérieurs universitaires? Est-ce que c'est une méconnaissance? Troisièmement, ce qu'on questionne aussi, c'est de voir est-ce qu'il existe des biais au niveau du système d'immigration fédéral, parce que quand on regarde les raisons, elles nous apparaissent très peu pertinentes. La fameuse raison, nous ne sommes pas convaincus que vous retournerez dans votre pays d'accueil, bien, c'est évident qu'on ne peut pas être convaincu parce que l'entièreté des programmes, en fait, d'immigration permanente sont des incitatifs pour ces étudiants-là qui nous choisissent pour leurs études, d'une part, donc il y a une incohérence. Deuxièmement, la question des ressources financières. Eh bien, on a noté que le taux de refus était aussi élevé pour un étudiant boursier du gouvernement du Québec qui dispose d'une exemption de droit de scolarité et d'une bourse pour son séjour qu'un étudiant qui a un compte sur ses ressources financières propres. Donc, encore là, vous imaginez que sur les 600, vous imaginez combien d'étudiants on doit accompagner vers l'admission et qui ne se convertiront jamais en étudiants assis en classe. C'est une préoccupation que nous avons martelée au niveau du gouvernement fédéral. Ça n'empêche pas, par contre, c'est le côté négatif de l'opération, ça n'empêche pas, par contre, qu'on le voit, l'intérêt est grandissant, on fait de notre mieux pour accompagner les étudiants dans la compréhension des mécanismes d'immigration. On fait notre part dans cette opération-là pour réduire le maximum de biais et assurer que l'information est bien transmise, partagée aux étudiants admis. On a témoigné au comité permanent sur l'immigration au mois de février en exposant ce que je vous ai exposé, c'est-à-dire les taux et les raisons pour lesquelles on fait ça, l'incidence en fait des taux de refus dont la justification mériterait analyse. C'est certain aussi qu'on a posé au gouvernement fédéral et au comité l'idée de dire il ne faut pas non plus trouver des solutions à la va-vite. Les maisons d'enseignement, surtout l'enseignement supérieur, et même les questions de formation professionnelle, tous les paliers qui sont concernés, qui accueillent un nombre de plus en plus important d'étudiants internationaux de l'Afrique, en fait, ils sont aussi partenaires. En fait, on est tous ensemble là-dedans. Donc, on veut éviter que le gouvernement fasse une décision rapide, mette en place quelconque système qui reproduit les biais que nous notons actuellement, de façon trop rapide pour répondre à la question. Alors, nous, ce qu'on dit, bien, nous sommes partie prenante, nous sommes prêts à travailler, à collaborer pour expliquer ce qui est notre réalité, ce qui est la vôtre, et de participer à une solution qui est durable, en fait, pour ces étudiants-là. C'est pas une mince tâche, hein? C'est pas un mince projet que de dire je vais me délocaliser pour aller me former de l'autre côté de l'Atlantique. C'est quand même un projet ambitieux.
7 milliards de voisins, c'est maintenant!
7 milliards de voisins sur RFI, reportage sur les espoirs et sur les difficultés d'accéder à la formation professionnelle au Québec pour des candidats africains prêts à émigrer. Pascal Guéricolas.
Oui, même s'ils ont réussi à arriver finalement au Canada, j'ai discuté de ces questions administratives avec Manuela. Elle vient de finir en électronique industrielle. J'ai discuté aussi avec Jean-Loïc, qui est inscrit en technologie électronique, tous deux au Cégep de Trois-Rivières.
Les démarches administratives sont compliquées, c'est lourd, mais et aussi il y avait une rétroaction qui était très... Donc, on avait une bonne rétroaction avec le bureau international, Janie, Marie. Donc quand tu travailles sur un dossier, tu es bloqué, tu sais au moins que tu n'es pas toute seule. Tu peux écrire à l'école, donc c'est vraiment c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Mais là, les papiers, ça c'est sûr, il y en a beaucoup. Les preuves financières, les documents scolaires, donc il y a plein de papiers à donner. Fais l'inscription. Dès que tu t'inscris à l'école, là, on te répond rapidement. Mais c'est plus pour constituer les dossiers. C'est ça qui met long. Parce que moi, par exemple, pour m'inscrire, on m'a demandé mes bulletins de seconde, première, terminale. Je ne les avais plus. Il fallait aller à l'école et tu vas arriver à l'école, on ne va pas te servir le même jour. Donc, il y a plein de trucs qu'il faut, monter, descendre pour constituer des trucs, pour constituer les papiers.
Est-ce que c'est un coût important financièrement?
Moi, particulièrement, j'ai bénéficié d'une bourse. Mais normalement, la scolarité en électronique industrielle, c'est 15 800 que je donne, 16 000. Et 1 dollar est égal à 483 francs. Là, tu dis, 1 dollar est égal à 400. Et pour venir, il faut monter une capacité financière. C'est vrai, tu as une bourse, mais il faut montrer que si on t'enlève la bourse, tu peux subvenir toi-même à tes besoins. Pour moi, il fallait montrer au moins entre 20 000 et 25 dollars dans un compte.
Dans mes démarches de visa, bon, il est bien vrai, j'ai eu environ 2 refus de visa parce que mon programme coûte près de 18 000 $. Moi, particulièrement, j'ai bénéficié aussi d'une bourse, mais en quittant le pays, je n'avais pas encore ma bourse. Donc, il fallait toujours prouver la capacité financière. Si on ne voit pas la source, la provenance de cet argent, franchement, vous n'aurez pas de visa. Donc, une fois que nous avons appris cela, grâce au site d'immigration et aussi dans l'entretien que nous avons fait avec le CIGEP de Trois-Rivières, Madame Janice spécialement, nous avons eu plusieurs réunions avec le CIGEP. C'est ça qui nous encourage aussi beaucoup dans nos démarches. Parce qu'avant que nous arrivions, nous inscrivons au CIGEP, nous participons à plusieurs réunions. On nous dit exactement ce qu'il faut faire. Les documents, il faut là. Ça nous a permis de corriger beaucoup d'erreurs. Moment, dès que tu as une préoccupation, tu appelles le CIGEP de Trois-Rivières. Directement, tu auras une réponse. Ça nous permet aussi de mieux avancer dans nos dossiers. Les étudiants sont chez au Canada, mais il y a aussi tellement de bourses que les étudiants internationaux peuvent avoir. C'est ça aussi l'avantage qu'on a au Canada.
Parvenir jusqu'au Québec, cette province du Canada, ça demande beaucoup de patience et ténacité, je crois qu'on l'a compris. Comment expliquer, Pascal Guéricolas, qu'un pays qui a besoin de citoyens francophones pour respecter ses objectifs d'immigration mette autant de bâtons dans les roues à cette immigration qualifiée ?
Écoutez, le rapport de la commission de l'immigration dont je vous parlais plus tôt a identifié quelques causes potentielles de refus pour les candidats venus d'Afrique, notamment du côté informatique. Il pointe du doigt aussi le problème des agents d'immigration qui exigent des candidats un engagement à retourner dans leur pays après leurs études. Pourtant, dans le même temps, le gouvernement canadien encourage les diplômés étrangers à travailler ici, une fois leur scolarité dans ce pays terminée, parce qu'on manque de personnel qualifié. C'est donc un paradoxe assez incompréhensible. Autre difficulté, la provenance des fonds dont doit justifier chaque étudiant. Les autorités exigent d'avoir un revenu minimum dans le compte en banque, mais il faut prouver leur provenance, ce qui nuit à des demandes venant de pays où les informations bancaires ne sont pas reconnues par le Canada.
Et une grande partie des économies de ces pays sont informelles, donc effectivement, ce n'est pas évident. Comment réagit le ministre canadien de l'immigration à ce rapport ?
Pour l'instant, ce ministère dit qu'il déploie tous les efforts nécessaires pour faciliter la venue d'étudiants africains de ce côté-ci de l'Atlantique. Parmi les mesures, le volet direct études, offert pour l'instant à deux pays du continent africain, le Sénégal et le Maroc. Cela implique que les candidats déposent 7 000 euros dans le compte d'une banque qui est reconnue par le Canada pour chaque année d'études. D'autres pays africains pourraient éventuellement s'ajouter bientôt. Le Canada, lui, vise 4% d'immigrants francophones d'ici les prochaines années. Dans quelques jours, le gouvernement canadien doit aussi répondre aux recommandations du rapport parlementaire. Mais en attendant, l'opposition dénonce le très petit nombre d'étudiants africains, une fois encore, qui ont pu entamer leur scolarité au cégep cette année par rapport à celles et ceux dont le dossier avait été admis. 80% environ n'ont pas reçu à temps leur permis d'études qui est délivré par le gouvernement canadien. Ils doivent donc reporter leur projet d'études d'un an. Les cégeps espèrent que des mesures adéquates seront bientôt prises parce qu'eux font face à une énorme augmentation des demandes d'admission en provenance d'Afrique et ils aimeraient pouvoir en accueillir davantage, ne serait-ce que pour disposer de plus d'élèves dans des formations techniques, mais aussi pour répondre aux multiples demandes des employeurs qui sont en manque de personnel.
Eh bien, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup, Pascal Guéricolas. Votre reportage, bien sûr, est à réécouter pour avoir aussi toutes les informations pratiques en podcast, comme toutes nos émissions. Les voisins, les voisines, vous pouvez aussi retrouver cette enquête en images sur nos réseaux sociaux, Facebook et sur notre compte Instagram, 7 milliards RFI. On se quitte avec les Cowboys Fringants. C'est un groupe qui cartonne. Plus d'1 300 000 albums vendus à travers toute la francophonie. Un groupe célèbre pour son engagement, notamment pour la cause de l'environnement et pour l'indépendance du Québec.
Malgré nos vies qui s'emballent dans une époque folle, où un rien nous détourne du simple instant présent, alors que tout s'envole avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds ici-bas. Celui qui nous fait vivre d'espoir, qui parfois fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire, sans qu'on le veuille. Malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachat, je m'accroche les pieds. Que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle ici-bas. Les petits, les grands tourments, les erreurs de parcours et tout ce qui nous rattrape dans le détour. Malgré l'ennui.
Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianus, Romain Dubrac. Lundi, discussion en direct avec vous, les voisins. Vos parents vous font-ils confiance pour vos grands choix de vie, vos études, votre métier, votre mariage, votre lieu de résidence? Si vos parents se mêlent de tout et si c'est compliqué pour vous en tant que jeune adulte, eh bien appelez-nous pour qu'on en discute en direct lundi, 33 7 64 45 51 41. À lundi.
7 milliards de voisins, c'est fini.